podcast.com. Essaye ça.
Wow, salut tout le monde, Tommy Godette en direct du Musée de l'Absurde pour une nouvelle édition de Terrain Basique entre amis. Je suis avec Nounours, bien entendu, mais aussi avec Olivier Bourbonnais qu'on a redécouvert la semaine passée. Comment ça va?
Ça va mieux que la semaine passée.
Les choses évoluent.
All of them witches.
Et Emmanuel Côté-Séguin.
Hey, je suis vraiment content d'être là aujourd'hui.
Ben oui, et Yolon Pré aussi.
Hey, salut les magiciens et les magiciennes.
Je suis content de te revoir ici. Et oui. Jonathan, cette semaine, qu'est-ce que tu nous as planifié comme audio en bac?
Ce que je vous ai planifié aujourd'hui, c'est un petit album indie, Pixel Heart, un petit artiste Nomadou. Qui s'est donné à plein cœur cette année pour faire un album chiptune, chillwave que j'aime bien. Mais si vous me permettez juste une petite intervention, il y avait une boutique de board game puis de jeux de cartes qui était sur Saint-Denis, proche d'ici. Son voisin d'en haut a passé au feu. Les pompiers sont arrivés. Ils ont garoché de l'eau, du cardboard, de l'eau. On a une bonne idée.
C'est Geek,
chez Geek. Puis il vient juste de réouvrir proche du métro Fort.
J'étais à côté de chez ma mère. C'est encore un peu genre bordélique là, ils sont déjà en train d'accueillir du monde, faire des jeux à Flesh and Blood
Flesh and Blood, Magic FNM, principalement là. Principalement board game, mais il y a quand même une bonne sélection. Puis G puis son frère sont super sympathiques, fait que
ouais, vraiment nice. Ouais,
moi je tiens juste à dire, je suis allé chez Geek une fois, c'était pour le pre-release de Out of the Gatewatch, c'était en Two-Headed Giant et c'était fantastique. C'est plus grand, Star, parce que là, l'ancien local, c'est tout petit, là.
Ben, c'est mieux, moi, je dirais. Parce que il y a une portion où il y a les tables, c'est que ça, puis c'est comme plus profond, là. Dans le fond, c'est comme si on prit. C'est comme un logement, genre demi-sous-sol, là. Puis il y a comme toute la place où il y aurait une pièce d'eau, whatever, genre, il n'y a pas de mur. Fait que, tu sais, c'est toute la section de table, puis le reste, c'est comme le magasin, ouais.
C'est un ancien salon de thé qui était là. Je te dirais, c'est aussi grand, mais la logistique est meilleure.
C'est vrai que c'est un peu comme nowhere, comme spot, là, c'est à côté de l'hôpital Jean Talon. Sauf que pour les jeunes ou le monde que ça leur tente moins de dealer avec des zombies, genre, sur des substances du métro Berry,
la faune
c'est
de Berry,
pas
ouais.
mal mieux.
Ouais. J'avoue que c'était sur Saint-Denis, juste à côté. Ben merci pour ça, Jonathan. Puis Jason, notre sphinx qui va nous ramener dans l'aventure de la saga du Weatherlight. On était rendu que tout allait mal là, la semaine dernière. C'était vraiment comme le temps de vendre ses parts en Dominaria. Là. Moi, je suis pas mal explosé. Là-dessus.
On était suspendu, là.
On était sur Empire Strike Back.
Ça allait très mal. Écoute, on continue aujourd'hui le 7 Invasion, sorti en septembre 2000.
Les Phyrexiens de
Yagmoth envahissent le plan de Dominaria. Ça allait très mal. Quand on s'est laissé, on se rappelle, le royaume de Benalia avait été détruit par les Phyrexiens. Il y avait des portails Phyrexiens qui faisaient apparaître des monstres mécaniques un peu partout. Il y avait la peste qui se répandait. La peste.
Ça a pu aller plus mal.
Ça allait très mal.
La Bourbonic Plague.
Anna, qui s'occupe du moteur du Weatherlight, a pogné cette maladie-là. On savait pas si elle allait passer à travers ou pas. Et en plus, Teferi s'est sauvé parce qu'il s'est dit, moi, là, je prends pas de chance. Il s'est phase out avec Alphine.
On sauve courageusement.
Ça va vraiment mal. Le seul qui semble être confiant de ce qui se passe, c'est Urza.
Mais Teferi, sérieux, moi je trouve qu'il y a une petite vibe Oscar Schindler là-dedans que j'aille pas comparativement.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Ben, tu sais, décider de comme fuck off, on disparaît avec une coupe de monde, au moins ceux-là, on les sauve. Au lieu de.
Ben, c'est parce que tu retardes le problème de 20 ans. Quand tu reviens dans 20 ans, puis c'est les Phyrexiens qui ont gagné, puis tout le monde est mort partout.
C'est magique.
Penses-tu que tu vas avoir plus de chances de combattre les méchants?
Il
n'y
a pas vraiment personne qui.
Jason, tu étudies en sciences politiques. Qu'est-ce qui arrive quand un chef d'État se concentre à dire on ignore la politique internationale, on fait juste se concentrer sur la politique interne? Ça chie à tous les fois.
C'est pas faux.
Super, une autre intervention. Je checkais le logo Invasion puis toutes les autres. On s'entend, c'est les années 90. C'est un peu avant le crash de Marvel, début de Image Comics. Puis je trouve ça drôle que tous les logos récents qui ont été publiés dans le temps de March of the Machine, on pensait à Marvel Movies.
Ouais.
Puis là, je trouve que ça fait
les comic books.
Ça fait comme, tu sais, c'est volontaire. Tu l'as mentionné qu'il essayait de s'inspirer des comic books, les artistes qui sont. Mais même l'infographie des logos font comme Amazing Invasion, genre.
Bien vu.
C'est vrai.
Bon, donc, Urza avait prévu son plan. Si vous vous souvenez qu'on avait fait l'histoire de Urza Destiny, Urza s'était rendu dans la forêt de Yavimaya pour parler avec l'esprit des forêts. Hein. Ça, c'est Multani, qui est le Maro Sorcerer, là, l'esprit de la forêt. Et il avait expliqué que, regarde, je sais que tu m'haïs parce que dans la guerre des deux frères, hein, j'ai détruit comme le monde avec le Silex Blast. Mais il y a quelque chose de pire qui s'en vient, c'est les Phyrexiens. Puis si tu nous aides pas, ça va chier dans la pelle. J'ai besoin de toi, les esprits de la forêt. Ça, c'est, dans le fond, c'est Urza qui channelait sa magie verte. Et invasion, hein, les Phyrexiens arrivent. Là, c'est le temps que la forêt se déniaise. Qu'est-ce qui va se passer,
les
selon
Ents.
Toi, Tommy?
Pas des hosties d'elfes, en tout cas.
Ben ouais, les Ents qui
non,
vont
non, non, c'est les esprits
gobelins.
De la forêt, là, les esprits. C'est Gaïa, la déesse de Dominaria, là. Selon toi, qu'est-ce qui va se passer?
Ben, je pense que je le sais, on en a parlé tantôt, hein. C'est mes préférés.
Passe à la prochaine.
Ça va être la vengeance des...
Donc, au début, la forêt va y aller mollo. On voit sur la Canopy Surge, hein, qu'on lui laisse un verre qui tu peux payer Kicker 2, faire un dégât à toutes les créatures qui ont Flying et chacun des joueurs. Et si tu as payé le Kicker, ça va être 4. Dans le fond, c'est un Hurricane, mais pour invasion. On voit les genres de branches qui attrapent les vaisseaux phyrexiens pour les péter. Au début, ça va être ça, mais la forêt, en réalité, là, quand la peste arrive, pis ça va vraiment sortir de ses gonds, comme on dit. Passe à la suivante. Le Dominaria lui-même, à l'esprit primaire de Dominaria, va faire surgir des profondeurs un creature type qui existe juste dans Magic, mais qui est inspiré de Godzilla. C'est les Kavu. K-A-V-U. Dans Invasion, c'est là que ça commence, les fameux Kavu. On voit la carte, la tanière du Kavu, deux colorless, un vert. À chaque fois qu'une créature qui a un power de 4 ou moins qui rentre en jeu, tu piges une carte.
4 ou plus.
4 ou plus. On voit l'espèce de trou qui s'est ouvert dans la terre et deux espèces de monstres.
C'est comme les
kaiju,
là.
Okay. Ouais, c'est les kaiju du monde de Dominaria. Lis-nous le flavor text, cette amie.
As a dark rain of Phyrexians fell from the sky, fountains of Kavu erupted from the ground. C'est moi qui traduis après.
C'est le moment, Tommy, là, il l'attend.
Alors qu'une pluie sombre phyrexienne tombait depuis le ciel, des fontaines de Kavu éruptait du sol. Let's go,
Steve! Les Kavu sont surtout dans le vert. Tu sais, c'est un set multicolore. Hein? Fait que les Kavu sont dans toutes les couleurs, mais il y a tout le temps des couleurs qui est le vert.
Excuse. Oui. Là, il y a des Kavu sur Dominaria. Puis on sait qu'il y a des gros géants Gundam sur Kamigawa Neon Dynasty, puis qu'il y a des portails qui s'ouvrent random entre chacun des...
C'est sûr qu'on va avoir nos fights entre des Kavu puis des samouraïs robotiques à un moment donné.
Excellent.
Tu peux être sûr de ça. Fait que c'est les Kavu. On revient dans Invasion. Fait que les Kavu, c'est que t'as toute une série de monstres dans Invasion. Dans le fond, c'est quand tu vas drafter ça, là, tu vas y aller dans... Tu sais, c'est ça le dit. Hein, Power 4 ou plus... C'est de ramper vers un gros monstre. Passe au suivant, Tommy. Fait que t'as plein de cartes, là, ça représente. C'est un nouveau creature type. Les Kavu, là, j'ai pris l'exemple ici, c'est la commune. Trois colorless, deux verts pour un 3-3. Et quand il rentre en jeu, tu piges une carte. Tu vois, les Kavu, c'est des espèces de ils ont toutes comme des espèces de crêtes, comme un tricératops, là.
Ouais.
Ils ont toutes des grosses bouches bien garnies dedans. Et ils sont comme... c'est comme des genres de lézards, moitié élémentaire.
En fait, c'est très thématique Godzilla-esque kaiju, parce que à cette époque-là, Godzilla, il venait d'avoir le film aux States. Puis c'était aussi un moment où il était comme en remouture, hein, parce que ça change selon les aires différentes. Je me rappelle pas exactement, mais tu sais, ça dépend les aires japonaises, là, je sais pas trop. Là. Mais bon, tout ça pour dire qu'on était à changer d'air de Godzilla.
Bon, et la Hera venait de finir. L'autre reboot, c'est le Shin Hera qui est arrivé vraiment, vraiment plus tard.
Parce que ça a pas... Mettons, le Godzilla américain n'a pas très plu à l'international. Et le concept de Godzilla était beaucoup réfléchi. À l'époque, il y a eu une des patentes que j'ai trouvées les plus cool, une des interprétations, réinterprétations. Il y en a plein, là, des interprétations de Godzilla. Puis souvent, chaque AR, ça change. Puis des fois, ils font un film, puis ça recommence juste après le premier film. Puis tu sais, c'est assez dur de suivre la chronologie. Et et c'est de plus en plus difficile là, parce que ça se suit de moins en moins. Mais à l'époque, une version de Godzilla qu'ils ont interprété, qui était comme celle avec laquelle ils étaient pour avancer, c'est que les nombreux kaiju qui existent sur la Terre sont là depuis les temps primordiaux ancestraux. Puis ce qu'ils font, dans le fond, c'est qu'ils se sont laissés couler, puis ils s'en vont vers le noyau de la Terre pour se nourrir des radiations de la Terre, de son noyau. Fait que c'est très thématique qu'ils sortent du sol une fois de temps en temps pour protéger la Terre contre des méchants. C'est tout à fait Godzilla, kaiju.
Écoute, c'est Lilou le flavor text, c'est exactement.
The appearance of the first Kavu surprised Multani as they continued to emerge. He no longer had any doubts about Yavimaya's ability to defend herself. L'apparition du premier Kavu a surpris même Multani, hein, qui est un tas d'arbres. Et comme il continuait à émerger du sol, il n'avait plus aucun doute à propos de la capacité de Yavimaya de se protéger elle-même.
On rappelle, Yavimaya, c'est la plus grosse forêt de Dominaria. Là. C'est une forêt magique. Là. Puis il n'y a pas d'elfes, by the way, dans Yavimaya. Yes! C'est la forêt qui a les bibittes et ils ont les gorilles.
Ah, fait que Tommy friendly.
Ouais, les elfes sont dans l'Anowar.
L'Anowar!
Passe à la suivante, Tommy. Fait que c'est ça, toutes les couleurs ont leur cavou, mais il y a tout le temps du vert qui est pas loin, et ça permettait de, tu sais, quand tu voulais pas jouer noir, là, ben tu jouais les cavous. Tu vois, Serpentine cavou, c'est dans le vert un 4-4 pour 5, mais tu peux payer un rouge pour y donner Ace until end of turn. Tu vois, sous la façade pacifique de Yavimaya, battait un cœur sauvage. Hein. C'est vraiment les créatures qui sortent de la terre pour manger les Phyrexiens. Yavimaya Kavu, hein, qui est le power toughness égal au nombre de créatures rouges en jeu. Non, le power égal au nombre de créatures rouges en jeu et le toughness au nombre de créatures vertes en jeu. Tu vois, ça c'est une non-commune, c'est un build around vert et rouge en draft. Fait que, ouais. Plus que tu as des créatures de un ou l'autre, plus qu'elle va être forte. Et c'est une scène de maternité, hein, parce que vous voyez, c'est un genre de papa Kavu, puis il y a des bébés Kavu qui ont une tête en dessous. Et le Raging Kavu, un colorless, un rouge, un vert pour un 3-1 Ace qui a flash. Donc, tu sais, ça vous donne une idée là, de la palette de Kavu. Si tu passes à la suivante, pour supporter tout ça, tu avais une des cartes les plus puissantes de l'époque. Même si c'est une uncommon, c'est un autre build around. Ouais, ouais. C'est le feu de Yavimaya. Qui représente un peu là, genre, la magie de Yavimaya qui fait sortir les cavous. Un colorless, un rouge, un vert, un enchantement. Ça donne haste à toutes tes créatures et tu peux sacrifier la forêt de Yavimaya, le feu de Yavimaya, pour donner un +2/+2 until end of turn. En termes d'aujourd'hui, c'est pas si impressionnant que ça, on s'entend. Là. Mais dans la méta de l'époque, même en standard, c'était vraiment fort de donner haste à tes cavous. Si tu passes à la slide suivante, Fire of Yavimaya a été tellement joué, était tellement représenté dans beaucoup de decks à l'époque. Tu vois, ça, c'est le Pro-Tour Chicago qui a suivi la sortie du set de Invasion. Donc, c'est un peu comme le Pro-Tour standard basé autour là, de ce nouveau set-là qui vient de sortir. Et 4 des decks du top 8 jouaient. Dans le fond, c'est des decks de créatures. Tu vois, il y a 4 Bird of Paradise, 4 Llanowar Elf. Et pour il ramp vers des grosses créatures et le Fire of Yavimaya qui va généralement sortir au tour 2 permet qu'à partir de ton tour 3 là, ton Blastoderme qui est un 5-5 pour 4, ben quand tu le sors en jeu là, il est haste. Puis Blastoderme, by the way, il est shroud. Fait que l'autre tu peux pas le remove, il peut juste le counterer.
Wow, je pense que c'est très fort.
Shroud, c'est
très fort.
Shroud, tu peux pas être targeté par des spells.
Tu peux même pas le targeter. Fait que l'affaire Fires of Yavimaya, je pense pas que tu peux.
Il s'était juste utilisé pour avoir Ace autour d'eux.
Ouais, ouais, mais de toute façon, on parle souvent de Power Creep, puis où tu disais qu'il voulait descendre le power level dans la pension. Moi, c'est carte avec exactement le même casting card. Je pense que c'est sur Ravnica, mais c'est plus quel set que.
Rhythm of the Wild.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est la reprint de ça, la réinterprétation.
C'est ça, mais je pense que c'est Creature Spell Cannot Be Countered. Puis en plus,
non, c'est Ace ou tu plus donnes un +1/+1 counter.
Mais les créatures peuvent pas être counter aussi.
Ah ouais, ok. Ouais. Hey, ça doit être une carte de la semaine, ça. Donc, Fire of Yavimaya et les Kavu, c'est très présent dans le standard de l'époque. Comme tu vois, là, ça, c'est le deck de John Finkel, qui était un des plus grands joueurs de Magic. Mais tu vois, 4 des decks dans le top 8, les 4 sont pareils. Il n'y a pas vraiment de différence. Sideboard est différent, là, mais la méta était résolue. C'était tu jouais 4 Fire of Yavimaya, du Ramp, puis Blastoderme, ou Kavu Caméléon, là, qui est 3 colorless, 2 verts pour un 4-4. qui peut pas être counteré, tu vois, tu fais que le contrôle peut rien faire, et tu peux, c'est quoi, c'est tu payes un verre pour changer la couleur, mais ça on s'en fout. Bref, ça vous donne une idée là, de ce qui était joué à l'époque avec Likavu et Fire of Yavimaya. On passe à la prochaine, Tommy?
Ouais. Ben en fait, on s'en fout du changement de couleur, mais pas de ce que tu nous as montré de ce set-là.
Oui, non, en draft, vraiment, c'est bon, mais dans le contexte de ce deck-là, il y a
pas mal.
Là, on a terminé avec Yavimaya, qui est le vert et le bleu, et on va s'en aller à Shiv, hein, la fameuse île des Shivan Dragon. Shiv, on voit ici Shiven, l'oasis de Shiven, hein, qui est un land qui rentre tapé pour un rouge et un vert. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis dans le bleu, là, parce que Shiv, ça a tout été des genres de volcans qui sont de la mer. Mais bref, je sais pas. Mais on s'en va à Shiv. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce qu'il y a à Shiv?
Il y a des dragons.
Des gobelins.
Il y a des couteaux de prison pour se pogner dans les côtes.
des minotaures, des barbares,
du rhum des femmes.
Non, il y a surtout les artefacts Tran. Ça passe à la carte suivante, Tommy.
Je l'aurais jamais eu.
On se rappelle que Urza avait fait beaucoup de travail. C'est les cartes rouges dans Urza Saga. Ça passe à la slide suivante. Sur Shiv, il y a surtout dans Urza Legacy, vous vous rappelez le fameux Defense Grid, c'est que Urza avait construit une espèce de cité Tran, hein. Tran, c'est les anciens civilisations avancées de Dominaria, et il avait construit une espèce de grosse ville avec une grosse muraille qui l'entoure. Et ce qu'ils vont nous révéler dans Invasion, si tu passes à la slide suivante, c'est que Urza a plusieurs tours dans son sac, c'est que cette ville-là a des pattes, c'est un gros robot.
Mais voyons donc.
Fait que c'est le Tran Rig, son nom, là. Fait que là, on voit, c'est le Scorching Lava, où ce qu'on... Ça, c'est un instant, hein. On est encore là dans les cartes rouges et les cartes d'action, hein, l'action qui se passe dehors. Un colorless, un rouge, ça fait 2 dégâts à une créature ou un joueur, et si tu payes le kicker de 1 rouge, elle peut pas être régénérée. Fait que c'est un peu comme un genre
puis
de...
Elle
est exilée
aussi.
Et ça l'exile la carte. Ça, c'est le Lightning Bolt du set, là, à peu près, là, le choc du set, mettons. Mais on voit surtout le artwork qui est vraiment cool. On voit le Tran Rig de Urza qui s'est levé sur des pattes, puis qui fonce dans une espèce de gros robot phyrexien, puis qui crie sans feu.
Puis ça, c'est une ville avec du monde là-dedans.
Oui, oui, tu te rappelles, c'est les gobelins, puis les vieux gobelins intelligents qui savent contrôler des machines.
Tu as des ceintures sur ton divan.
Oui, ça grouille.
J'espère qu'il y a un bon set de suspension, comme tu dis, parce que si tu essaies de boire ton thé, puis là, ils font comme, on s'excuse, mais là.
Mais tu imagines, genre, le plombier ou le concierge qui est en train de travailler, genre, puis là, à chaque fois que ça bouge, les toilettes redébordent.
Tu penses c'est quoi le combustible du feu?
Sûrement.
Ouais, vous êtes créatifs.
Biofuel.
On passe à la suivante. T'as plusieurs cartes qui montrent le Tran Rig qui se déplace puis qui se bat. Ben or Break, vous vous rappelez, la semaine passée, on avait Fact or Fiction.
Ouais.
Ben or Break, c'est le Fact or Fiction, mais dans le rouge. Toutes des cartes inspirées de Friction Portal. Toi, quand on le laisse un rouge, tu vois, chaque joueur sépare en deux piles leur land. Chaque joueur choisit la pile de l'adversaire qui va pouvoir garder et détruit l'autre pile. Puis tu tapes toutes les lands. C'est un land destruction pour 4. Mais là, ce qu'on voit, en fait, c'est les... Tu sais, tantôt, c'est le Tran Rig rentrer dans les Phyrexiens puis le mettre en feu. Sur cette carte-là, c'est est-ce que tu vas plier ou briser? C'est les Phyrexiens ont fait shaker le sol. Fait que là, la machine, elle commence, tu sais, à trébucher. Est-ce qu'elle va tomber à terre ou pas? C'est très, très, très concept, ce qui se passe sur ces cartes-là. Fait qu'on voit, ça, c'est l'action sur Shiv. Passe à la suivante. Tu nous avais parlé de Joyra, Bourgogne, la semaine passée. Ben, qui est la mage de Urza qui est sur Shift?
Excuse-moi. Oui, Chris, c'est fort, ça.
Ben or Break?
Ben oui.
Tu viens d'arriver en ville, Tommy?
Ouais, ouais, ouais.
Toi qui aimes le Land Destruction, je l'ai.
Dans quel genre de deck tu mettrais?
Si tu veux trader.
Dans mon deck de chien.
Oui.
Péter des Landes.
Ouais, ouais, ça irait très bien. C'est une carte de 25 cents, Master.
Waouh.
Lâche plus lousse. Là, t'as toutes les spells de Burn ont rapport avec Shiv et le fait que les habitants de Shiv se défendent contre les Phyrexiens en sortant de la lave volcanique puis des éclairs. Fait que tu vois les flammes tribales, hein, Tribal Flame, Herculonus, un rouge, tu fais X de dégâts, X étant le nombre de basic lands différents que tu contrôles. C'est encore la mécanique là, de Barry que je parlais la semaine passée. Et le flavor text, ça dit « Le feu est un langage universel, signé Joyra ». Gitu Fire, hein, on voit ça, c'est le Fireball du set, X rouge. Tu peux le jouer comme un instant, c'est un sorcerer, mais tu peux le jouer comme un instant si tu payes un kicker de 2. Et tu fais X de dégâts à un joueur ou une créature. On voit Joyra qui lâche un paquet de feu sur une créature phyrexienne. Fait que c'est vraiment là, on est dans l'action. Là, c'est vraiment comme, tu sais, tout va mal, mais on se laisse pas faire, on se défend. sacre contre les Phyrexiens. J'aime vraiment leur artwork, là, les, sur Tribal Flame surtout. Là, on voit l'espèce de les, ça, c'est des Order of Yagmoth. Si vous allez voir la carte Order of Yagmoth dans Urza Saga, c'est un 2-2 pour noir. Là, c'est exactement les trois bibites qu'on voit sur Tribal Flame.
Fait que si je comprends bien, comme ce set-là, ça a commencé dans la forêt sur Dagobah, puis là, genre, il y a du feu partout, c'est sec. On est retourné sur Tatooine, puis il y a plein d'actions, right?
Non, du feu, c'est Mustafar.
Là, on a commencé par des scènes de bureau.
Des scènes de bureau.
On passe à la suivante.
Ah, c'est la carte de la semaine, présentation du pub ludique. L'adversaire 4303 Sainte-Catherine Est, mais on n'ira pas vers ça avant de se taper une dose de Beatable. Wow, je sais c'est quoi ça.
Donc, Tommy, c'est toi qui as choisi la carte de la semaine. Je vais te laisser y aller.
Ben oui, comme dans le temps, Colin. C'est probablement ma carte défensive préférée. C'est super versatile. Ça te débarrasse de n'importe quoi ou presque. Puis, and then some. Nous, en plus, au Musée de l'Absurde, on joue souvent à gang. C'est idéal. Là, tu peux... tiens, je vais rapidement y aller. Ici, on voit des cavus. En plus, j'aime ça, les cavus. Ça, c'est
Teferi qui unsummon des cavus. Qui fait la carte de la semaine. Puis, tu vas comprendre dans disant le favorite text, pourquoi Teferi unsummon des cavus, vas-y, montre-nous la carte.
Besoin, hein? C'est Washout, c'est vraiment une de mes cartes préférées, ça. Ça coûte juste un bleu, trois colorless, et tu retournes tous les permanents de la couleur de ton choix dans la main de leur propriétaire. Voilà, rest now, you've neither won nor lost, but this battle is over for you just the same. Allez, reposez-vous, vous n'avez pas perdu ni gagné, mais ce combat est terminé pour vous.
Parce que dans le fond, ce qu'on voit, c'est que les cavus, c'est un petit peu compliqué à contrôler.
Ouais.
Puis Washout, c'est ce que ça montre, c'est qu'une fois que les cavus ont mangé les Phyrexiens dans la place, ben Teferi est en arrière et il les renvoie d'où ils viennent.
Jusqu'à la prochaine bataille.
Mais ouais, les cavus, ça mange tout.
C'est ça que, moi, ça me fait penser à ma famille. Là. Je sais que c'est facile de penser à ça, là, que j'ai une famille de cavus. Mais ça me fait penser à comme mes gars quand ils décalissent tout puis que je leur demande de l'aide. Ouais. Puis que finalement, je fais comme non, allez jouer à l'extérieur, papa s'en occupe, parce qu'ils font juste remplir
le problème. Ouais.
Ouais, c'est ça.
Dans quoi tu joues à Shout, Tommy?
Ben, c'est. Pas mal toutes mes decks contrôle avec du bleu, là, c'est idéal parce que mettons l'autre fait quelque chose que t'aimes pas, tu le retournes dans sa main puis t'attends qu'il le recasse pour le counter speller. C'est une manière en deux étapes de te débarrasser de n'importe quel permanent, mais c'est pas vraiment ralentissant parce que l'autre faut qu'il recasse le spell.
C'est pas genre.
L'autre se ramasse avec toutes les affaires. C'est bien bien rare. Tu peux tuer aussi souvent tous les tokens de l'autre. C'est super versatile.
Je tiens à souligner que c'est pas les créatures, c'est les permanents.
Ouais.
Fait que ça ramène les enchantements, ça ramène les plaisirs.
C'est ça. Puis
dans les créatures aussi.
Ouais, les créatures, mais c'est parce qu'on est habitué que c'est juste les créatures. Ouais.
Peu importe le format, peu importe la game, si pour 4, tu peux faire un board wipe one-sided, que ça affecte juste tes ou ton adversaire, c'est excellent. Parce que si ça coûte 4.
Ou si tu veux sauver tes propres armes. Ah non, tu peux pas.
Oui, tu peux.
Tu peux le faire quand c'est ton tour, avant que François aille le mana pour faire Oblivion Stone ou je sais pas quoi.
C'est là, très versatile. Là. Tu retournes toutes les affaires pour bloquer de l'autre dans sa main avant que tu l'attaques. Voilà. C'est sûr que c'est souvent mieux dans des decks monocouleurs, mais moi, je le mets dans des decks bleus ou deux couleurs avec du bleu. C'est vraiment mon spell défensif préféré.
Ah ouais,
De toute façon, même si t'as plusieurs couleurs dans ton deck, si t'as juste une couleur dans tes permanents, c'est bien correct aussi.
Mais l'affaire qui est le fun aussi, c'est que tu sais, juste comparaison, c'est une carte que tout le monde joue en Commander ou dans plusieurs formats, c'est Cyclonid Griff. Puis Cyclonid Griff, c'est un instant, puis le monde font juste la jouer pour 7 pour que ça soit un one-sided. Il coûte 4. Puis je suis pas mal sûr qu'il coûte vraiment, vraiment moins cher à aller chercher.
Cyclonic Griff, c'est une bien meilleure carte, honnêtement, là. Mais, parce que tu peux faire plus chier, mais le dessin de celle-là écrase celui de Cyclonic Griff haut la main.
Mais là, pourquoi vous parlez d'une autre carte pendant ma carte de la semaine, là? C'est quoi Cyclone
Rift? C'est pas moi qui ai commencé.
La même chose.
Je vais te unsummoner.
Oh Cyclone Rift, c'est que tu choisis pas la couleur, c'est que t'enlèves tout, mais ça te coûte, je sais plus, comme 6, je pense.
7.
7.
Ça, c'est 4. Hyper versatile. Excellent choix.
Ouais. Wow. On passe à celui-là.
Merci beaucoup. Hein. On va remercier encore Bone d'en écouter une petite tranche avant de retourner dans Invasion avec les Cavures. Ah ben tiens, c'est mon deck de slush, ça. C'est pas mal un de mes decks les plus
fiers. Les plus beaux lands avec Snowland ever.
Ouais, ouais, ouais,
ça, c'est ce deck-là, ton but, c'est de faire piger les cartes à l'autre et de renvoyer tout ce qu'il met dans sa main.
C'est ça, c'est de le
mille. Puis là, il stand, puis il s'en va.
Avec Sphinx tutelage, puis sinon, je bounce des affaires avec des washouts. Ça, Trade Secret, ça te fait piger au moins 4 cartes pour 2, pour 3 mana. Puis si l'autre, il veut s'en piger plein, go, ça fait que je vais le miller plus vite. J'ai beaucoup de succès avec ce deck-là. Ça nerve pas mal fort. Et il y a mon Counterspell préféré, Arcane Denial. J'aime mieux les Counterspells que... T'sais, l'autre, il pige 2 cartes. Moi, j'en pige une. Fait que ça se rend en place. Puis l'autre aussi. Là,
tu veux qu'il pige
une? C'est plus poli. Hein, puis souvent, avec ça fait un médaillon qui fait que tes spells bleus coûtent un colorless de moins. Mais tu peux le caster juste pour un bleu ici. Fait que ça fait quand même une assez bonne différence.
Y a-tu une raison pourquoi si toutes tes lands, c'est des snow-covered islands?
C'est parce que c'est mon deck de slush.
C'est juste pour la saveur.
C'est ça, c'est pour la saveur.
C'est un deck de slush bleu.
C'est ça, t'es pogné dans slush. Là. C'est comme quand tu pousses ton Winnebago dans slush. Là,
ceux qui nous écoutent et qui n'ont jamais joué contre Tommy, son deck de slush, là, vous vous dites, ben, c'est donc ben con, il me fait piger et j'ai le card advantage. Non.
Ben, si tu veux.
T'es pogné dans slush.
C'est ça.
T'es pogné dans slush, je te garantis. Mais... tu vas avoir 15 cartes dans ta main et il n'y en a aucune des gars.
Mais aimes-tu le jouer, ce deck-là? Ou c'est...
Ben oui.
Ben oui.
Ou c'est juste comme pour. Dire à quelqu'un
j'ai plein de fun j'ai plein de fun avec ça
au début c'est
pige des cartes tout le monde pige plein de cartes
les gens qui connaissent pas ce deck là au début ils ont du fun parce qu'ils se disent ben yo il me fait piger plein de cartes c'est cool
ils jouent avec nos émotions
la seule fois que j'ai quitté une table d'un match contre Tommy il jouait le deck de slush
je m'en rappelle
j'ai vraiment fait comme ok non je t'en ai
tu l'as flippé la table
je suis
parti je prends un autre deck. C'est comme, je t'en ai, je danse là, il n'y a rien qui se passe.
Moi,
Breakthrough, ça aurait pu être aussi une des cartes que j'aurais pu utiliser, carte de la semaine. Là, ça coûtait X, puis un bleu, tu piges X cartes, puis après ça, il faut que tu discartes tes cartes jusqu'à temps que t'en... Non, t'as un peu, tu piges 4 cartes, puis après, tu discartes des cartes jusqu'à temps que t'en ailles X. Fait que, tu sais, si, mettons, tu payes bleu, puis 4, là, tu piges 4 cartes, puis tu gardes les 4 cartes, là, ben, tu vas peut-être ajouter un île ou ce genre d'affaires-là. C'est sûr, ça sert à plus jouer des cartes. Aïe, merci pour la carte de la semaine, Tommy, puis elle était vraiment bonne, puis on va écouter encore le beat à bonne. Ah ben, tiens, on y revient. Et le beat à bonne pour vrai. J'aime ça, on va avoir en background le truck qui recule dans la rue.
Oui, on a la journée de déménagement, il y a du camion dehors.
La construction, c'est difficile à...
Ça brasse, ouais, ça brasse sur notre rue. Et donc, nous voici Distorting Wake. De quoi qu'on jase?
Écoute, on revient dans le feu de l'action. Hein? Les cartes bleues ne sont pas que des scènes de bureau dans Évasion. Tu as aussi des cartes d'action dans le bleu. Distorting Wake, X, bleu, bleu, bleu. Tu retournes X non-land permanent dans la main de leurs adversaires. Moi, j'aime bien jouer ça en Commander. Ça dit dans le flavor text...
Gerard Savard, a grim smile as the friction portals disappeared behind the weather light. Gerard faisait un sourire cruel en regardant les portails phyrexiens disparaître derrière le weather light. Ça marche, style.
Je suis content. On se rappelle, là, tu sais, la dernière fois qu'on avait vu l'équipage du Weatherlight, à part Anna qui avait pogné la peste puis Orim s'en occupait, les autres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, ils checkaient, OK, qu'est-ce qu'on fait pour se débarrasser des Phyrexiens qui envahissent? Et la carte de Starting Wake, c'est qu'ils se rendent compte que si on vole d'une telle façon avec le Weatherlight entre les portails Phyrexiens, qui sont les grosses machines volantes que je parlais la semaine passée, apparemment, on est capable de les interrompre. Fait que c'est ça que la carte ça représente. On voit le weather light là, qui fait des genres de zigzags entre les portails, puis les portails se rentrent dedans. Là, ça fait très cartoonish.
On voit qu'il laisse des chemtrails en arrière.
Ouais, il y a un beau chemtrail bleu de magie bleue. Hein. Donc là, c'est vraiment là les dominariens commencent à arrêter de niaiser, puis il faut réagir. il faut contre-attaquer. On va venger Benalia.
J'aime ça parce que la semaine passée, tu avais l'illustration hyper cartoonesque de la fille qui s'occupe des...
Anna?
Anna, non, de celle qui s'occupe des moteurs, qui était là en train...
Ah, c'est ça, c'est Anna.
C'est Anna qui est en train de tout faire comme des calculs nowhere pendant qu'il y a le vaisseau en arrière. Puis c'est comme... Fait juste peser sur le gaz. Puis là, tu fais comme... Ah non! Calculer mathématiquement.
Elle a calculé pour faire ça.
Pour faire ça, ça fonctionne.
Ça fonctionne.
Ça faisait partie du plan depuis le début.
Puis parlant de la semaine passée, encore une fois, au moins là, ça pop parce qu'il y a des éléments de couleur contrastante, mais l'espèce de, je sais pas, de trajectoire de chemtrail, on le voit pas tant que ça. Puis ça me gosse.
Ah, ça te gosse? Ah, moi, j'aime
beaucoup.
C'est
beau, mais... Ouais,
non, je l'aime beaucoup. C'est le Weather Light qui scrape une coupe de portail Félix. On passe au suivant.
Let's go, Weather Light.
On a plusieurs scènes là, dans le fond c'est Urza et Barin, on s'appelle de Barin. La dernière fois qu'on l'a vu, c'est dans le set Prophecy.
Le recteur
de l'université tolarienne. Si vous vous souvenez, qu'est-ce qu'il faisait parce que dans Prophecy, il y avait la guerre entre les Keldon et Jamura. Et qu'est-ce que Barin faisait pour... Parce qu'il était comme, tu sais, c'était un vieux magicien un peu dépassé. Qu'est-ce qu'il avait fait, t'en rappelles-tu?
Ah oui, le il est allé prendre des shooters d'eau magique jusqu'à temps que ses cheveux reviennent noirs.
Oui, c'est que Barin, il a dit, OK, là, l'invasion Ferrixen s'en vient, je dois être plus fort. Fait qu'il a bu l'eau de l'île Tolarienne qui... Parce que, tu sais, toute la trame temporelle est tout croche hein, sur l'île de Tolarien. Retournez voir notre Urza Legacy qu'on avait fait.
T'es en train de dire qu'il... sur l'adrénochrome, le gars?
Oui, c'est que Barin, il boit l'eau de Tellaria et ça le rajeunit. C'est pour ça que le Barin, sur les cartes d'invasion, c'est un dude avec des cheveux noirs. Il a les mêmes cheveux, mais ils sont noirs. Sa barbe est noire. Alors que dans Urza Saga, c'est un vieux magicien style Gandalf, puisque tous ses cheveux sont blancs. Son truc de « OK, maintenant, c'est la bataille finale. » Il boit l'eau de Tolaria et il se met comme à rajeunir. Et le temps est compté parce que là, à un moment donné, il va... Il a comme inversé son cycle de vie. Fait que là, il est dans son prime.
Un bébé, fait que c'est Benjamin Button avant Benjamin
Button. Pendant un fight. Tu comprends?
Audacieux.
Puis là, c'est pour ça que comme Barin Unmaking... qui est un instant où on voit Barin qui comme counterspell un Phyrexien. Tu vois, si tu retournes un permanent dans la main de son contrôleur, et s'il y a une couleur... s'il est de la couleur... C'est quoi, c'est...
C'est pas bon, là. Oh, non, tu retournes bon, dans la main un permanent s'il y a la couleur qu'il y a le plus de permanents de cette couleur-là en jeu, ou égal à la plus.
Un bounce spell pour deux hyper conditionnel.
C'est même pas bon.
Ouais, c'est vraiment pas bon.
Mais le dessin, il est encore une fois débile.
Je viens de dire, le dessin est cool, puisqu'on a parlé tantôt qu'il y avait une transition à peu près dans ces années-là vers le digital. Ça, c'est digital.
Ça, c'est digital, tu penses?
Non, je pense pas.
Ah ouais. Non, c'est...
Je suis trop loin pour le voir, mais...
Le glow auto fait
C'est très Image Comics. Si tu regardes, c'est...
Je vais juste m'approcher.
C'est à partir de ces années-là où c'est que... T'as la différence.
C'est pas digital.
Bon, ben.
On a nos deux artistes.
Peut-être le clou, mais je suis même pas sûr, ça peut être du
rock. On passe à la suivante. Vous ferez un podcast, ça, guys. C'est Sick Battle. Là, dans le fond, tu sais, on se rappelle tantôt, Teferi chialait après Urza. Hein? Tu sais, comme. Ouais. Genre, comme c'est vraiment la merde, ton plan, on est en train de se faire donner une volée. Ben, Barin, il a la même opinion. Puis on voit sur Psychic Battle que Barin commence à péter sa coche contre Urza. Et c'est pas la première fois. Si tu passes à la... Donc, on voit les deux, ils s'ostinent. C'est probablement que Barin, il dit, voyons, ça n'a pas de style bon sens, ton affaire. Passe à la suivante, Tommy. En fait, c'est que non seulement ça va pas bien pour Dominaria, mais Urza apporte une très mauvaise nouvelle à Barin.
Oh non.
C'est la carte Mourning. Un colorless, un noir, un aura qui donne moins 2, moins 0 à une créature et tu peux payer un noir pour la ramener dans la main. C'est que dans le fond, pendant la bataille, Urza, tu sais, il prend des nouvelles du Weatherlight et il apprend. Lis-nous le favorite text, Tommy.
Barin waited for the nausea to pass or for Urza to say something else. He waited in vain. Barin attendait que la nausée d'Urza passe ou qu'il mentionne quelque chose, mais il attendait en vain.
Fait que, qu'est-ce que Barin va apprendre de la bouche d'Urza? C'est que malheureusement, ça la a peste marché. A eu raison de Anna, qui est la fille de Barin. Fait que là, non seulement les Phyrexiens sont comme en train de tout péter, mais en plus, la chose la plus précieuse que Barin avait, qui était sa fille, la navigatrice du Weatherlight, est morte de la peste. et on voit aucune carte ou anneau meurt de la peste. Et je suis
triste.
T'es triste?
Tu veux me faire pleurer, là?
Je suis désolé, mais non, il n'a pas passé à travers.
C'est sa femme.
Non, c'est sa fille.
C'est, en tout cas...
C'est la blonde à Gérard, man. T'imagines-tu que c'est Gérard?
Ça change quoi?
C'est Gérard, il s'est peut-être déjà refait à une blonde.
Non, non, non. Toi, lui, Gérard aussi va mal le prendre. Fille. Mais un qui va vraiment mal le prendre, c'est Barin. Parce que là, Barin, il va dire, Chris, les hosties de Phyrexiens, là... Les hosties les de Phyrexiens,
de Phyrexiens.
Ben, passe-toi ben, la capsule, Tommy. Il va péter les plombs, man.
Fait qu'un truc qu'il va faire, c'est il va sortir le corps de où est-ce que le corps de Anna. Hein? On voit la carte Recover, deux colorless, un noir. Puis là vous allez me dire ça fait aucun sens avec ce que je raconte, mais donnez une chance, c'est un jeu de cartes. Deux colorless, un noir, tu ramènes une créature du graveyard dans ta main et tu piges une carte. Là tu vas me dire ah il l'a ramené en vie.
Ben oui.
Asbarin.
Exhumed his daughter's body, finally realized the full price of his fate in Urza. Alors que Barin exhumait le corps de sa fille, il réalisa finalement le plein prix que sa foi en Urza lui avait exigé.
Donc, malgré ce que la mécanique de la carte nous fait penser, c'est pas Barin qui ramène Anna à la vie. Il est pas capable de faire ça.
Okay.
Ce qu'il fait, c'est qu'il juste, il a récupéré le corps et il va le mettre dans une zone comme hors de où ce qu'ils sont en ce moment, qui est l'île de Tolaria. Et si tu passes à la carte suivante, il va être vraiment en tabarnak. Ça, c'est le Crown of Flame.
Whoa.
C'est une autre carte qu'on voit Barin vraiment en crise avec plein de feu. La carte, elle donne Fire Breathing. Et la carte suivante, qui est vraiment l'accumulation de Barin est en crise, il veut en finir avec l'invasion.
All my life, I've fought these monsters to the I finished that
oui,
fight.
Oui, excuse, c'est pour ça que je l'avais mis là. C'est
toute ma vie, j'ai combattu ces monstres et aujourd'hui, j'ai Roger Normandin. C'est pas moi.
C'est pas moi qui a commencé la chicane, mais je suis capable de la finir. Fait que la carte suivante,
let's go Barin,
qu'est-ce man. Que Barin va faire? Ah, excuse, on n'est pas encore arrivé. Il y a d'autres cartes où il pète sa coche. Tu vois, Barin Spite. Ou ce qui se met à péter des Phyrexiens.
Il pète sa coche.
Je trouve que le dessin de Therese Nielsen est vraiment mal réussi. Je trouve pas que ça ressemble
on
à Barin.
On dirait que c'est Wolverine ou on genre Weapon ouais. X.
Ça, c'est simple. C'est, tu choisis deux créatures qu'un adversaire contrôle. Et il en choisit une, il le sacrifie et l'autre retourne dans ses mains. C'est encore la mécanique là, comme Fact or Fiction. Tu sais, ouais,
c'est
un
l'autre
ou l'autre.
Choisit.
Ben ouais. Il dit que seulement la vengeance qui compte maintenant.
Seulement la vengeance compte maintenant. Vas-y, carte suivante.
Abandonné, esti, comme Batman dans certaines. Voyons aussi. Excusez, c'est ma souris.
C'est ça que je l'avais mis plus tôt. C'est la carte Obliterate. 6 colorless, 2 rouges. Peut pas être counteré. Tu détruis tous les artefacts, toutes les créatures, toutes les laines. Il peut pas y avoir de régénération. Ça dit dans le flavor text, pour sa famille, Barin a fait un feu de funérailles avec Tolaria. C'est qu'en fait, qu'est-ce que Barin va faire? C'est qu'il se met comme à péter plein de Phyrexiens. Là, les Phyrexiens se mettent comme à converger vers l'île de Tolaria parce qu'ils disent « Oh, il y a comme de la grosse résistance là-bas. » Fait qu'ils envoient de plus en plus de Phyrexiens se battre sur Tolaria et c'est un piège. Barin fait un obliterate. Il
la
détruit
solution finale.
Tout sur la table. C'est l'autre grosse explosion du cycle invasion. Dans le fond, Barin ne veut pas survivre à cette explosion-là, by the way, parce que ça détruit toutes les créatures.
Hein, comme on t'es voit... là dans Final Fantasy
Good
4.
Job,
exactement. On voit qu'il fait exploser l'île tolarienne.
Tabarnak.
Et vraiment, là, parce que...
Il avait ça dedans de lui tout ce temps-là. Hein?
Ouais, ben c'est ça. Tu sais, il se dit, là, je vais... Tu sais, on va perdre de toute façon, mais je vais en amener le plus possible avec moi. Ça, by the way, cette carte-là, ça fait en sorte que l'Académie tolarienne est détruite. Et c'est pour ça que dans... je pense que c'est la carte suivante. Dans Time Spiral... Dans Time Spiral, ils vont faire les ruines de l'Académie. Time Spiral est sorti plusieurs années après. Là. Ça, c'était la version bleue de Vol'rath Stronghold. C'est que tu payais un colorless, un bleu, pour prendre un artefact dans ton graveyard et le mettre sur la top de ta librairie. Je sais que cette carte-là est beaucoup jouée en Modern, entre autres, et en Legacy.
Non, parce Legacy, ça... non, mais en Commander, mais c'est pas grave. Ouais, c'est...
En tout cas, ça l'a été pendant ouais. un bout. Là. Il y a beaucoup de decks de Tron des fois qui ajoutent, mais ce que je veux dire c'est que ce que ça représente c'est l'Académie Tolarienne, c'est le Tolarian Academy, là, la fameuse carte de Urza Saga après le Obliterate de Barin, c'est qu'il reste des ruines sous la mer.
C'était quand même bien bâti pour qu'il en reste des morceaux aussi.
Écoute, c'est, tu ramènes les artefacts du graveyard sur ta librairie. On passe à la
suivante. C'est pas mal cool. Là. Mais Barin est tabarnak.
Oh.
Là, le plan de Urza, c'est quoi qui se passe là, Jason? Il n'y a rien qui se règle.
Il n'y a rien qui se règle. Tout va mal, mais tout est prévu.
Ça paraît pas.
Hey, ouais. Je m'excuse là, pour les fans d'Urza, mais c'est un enculé.
Alors, moi, ce que j'aime, c'est une sorte de Brothers War. le fucker qui sacrifiait des ressources pis ses créatures pour avoir des bonus.
T'as Mishra.
All right, c'est juste...
Le gentil, c'est Urza, là.
Ben, gentil, c'est vite dit.
Ouais. Ouais.
Écoute, c'est qui vite dit, on l'a
vous plaignez, ça fait deux semaines là, que vous vous plaignez que Urza, il fait rien, là. On y arrive. Power Armor. 4 colorless, un artefact. Tu payes 3 colorless, t'as à tap, une créature gagne +1/+1 pour chaque basic land différent que tu contrôles. Les grands périls demandent des armes formidables, dit le flavor text signé Urza. Ah,
comment Urza,
c'est
tout
que
le monde.
Urza va sortir une armée de Power Armor. Là, il va faire comme une contre-attaque. C'est qu'il va découvrir en fait que le gros des forces phyrexiennes sont sur les caves de Koilos. On en a déjà parlé. C'est notamment pas mal là que le Brothers War se passe. Fait qu'il va se dire, on va aller attaquer les phyrexiens à cet endroit-là pour, tu sais, c'est dans le fond, c'est les rebelles contre-attaque. Donc, t'as plein de cartes où on voit les fameux Power Armor de Urza. Retenez bien comment le dessin est fait sur le Power Armor, parce qu'à partir de maintenant, on va voir les Power Armor pendant 3 sets.
Oh là là!
Okay. C'est vraiment une pièce centrale de l'invasion. C'est, dans le fond, c'est les en plus d'avoir des Kaivus, les Dominariens, ils ont des grosses armures géantes pour combattre les Phyrexiens. Si on passe à la suivante, t'as toute une série de cartes. Là. Tu vois le Pledge of Loyalty, où qu'on voit Urza à bord de son propre Power Armor.
J'ai un petit feeling Warhammer, moi. Là.
C'est très Warhammer. Tu sais, même les épaulettes des robots.
Ouais, c'est
là. Retenez comment le cockpit là, où est assis Urza pour contrôler son Power Armor. Là. On va voir beaucoup de zoom. Fait que des fois, les gens, ils regardent une carte et ils comprennent pas trop qu'est-ce qui se passe. Mais quand tu comprends comment le design des Power Armor sont faits, tu te rends compte que il y a des scènes que c'est juste ils ont zoomé le cockpit puis on voit le personnage qui est comme qui est en train de faire un spell. Tu vois, c'est Urza a convaincu plusieurs Dominariens de mettre leurs différences de côté, de mettre leurs différences de côté et de les embrace them là, tu sais, de s'en servir. Fait que là, c'est
l'union, la résistance, l'union woke devant logo.
Ce que ça représente, c'est la mécanique de invasion là, qui est les mélanges des couleurs là, ouais. de techniques multicolores. On passe à la suivante. Alors, je vais vous en montrer un autre. Tu vois, Holy Day là, tu vois, c'est on voit les portails phyrexiens à droite. Tu préviens, ça c'est juste là, pour un blanc, tu préviens tous les combats que de combat de la
Un bon vieux fog en blanc.
Mais tu sais, ils ont mis beaucoup d'efforts dans l'artwork. On voit Urza et derrière lui, si tu sais pas que c'est ça, tu comprends pas ce qui se passe.
C'est
mais c'est un Power Armor.
Et will history remember this as the day the demons arrived or the day saviors arrived? Est-ce que l'histoire se souviendra de cette journée comme étant celle de l'arrivée de démons ou de l'arrivée de sauveurs?
Des lanceurs d'alerte.
Des lanceurs d'alerte. Correction, c'est pas Ron Spencer que j'aime pas, c'est Pete Venters.
OK.
Ben Ron Spencer aussi, là.
Ron Spencer est pire
plus que Pete Venters. Non,
Pete Venters, il a inventé les gobelins funny dans Magic.
Ouais, mais il dessine mal.
Searing Ray. On voit encore le Power Armor. Ça, c'est, tu vois, deux colorless, un rouge. Tu choisis une couleur, ça fait un nombre de dégâts égal aux créatures de cette couleur-là que lui contrôle. Et on voit un Power Armor qui est en train de faire des coups de laser dans les vaisseaux, dans les airs. Tu vois le flavor text, là? Ceci est la bataille des pions. Pour le plus grand prix imaginable signé Urza. Fait que ça, c'est le plan d'Urza. Il y a ces genres de gros robots. Tu vois, Void, 3 colorless, un noir, un rouge. On voit un Power Armor qui est en train d'écraser du monde. Tu choisis un nombre. Tu détruis tous les artefacts et les créatures qui ont un Converted Mana Cost égal à ce nombre-là. Après ça, le joueur te montre sa main. Tu fais la même chose dans sa main. Il va discarter le nombre que tu as choisi. Et c'est les cartes qui sont non-land. Fait que ça, c'est un genre de balance que tu choisis le numéro, là.
Avec une carte noire, rouge, puis c'est un spell de l'armée d'Urza.
À date...
Ouais, ben c'est les, on embrasse les différences. C'est les, by the way, c'est Urborg, qui sont les tu sais, c'est les zombies, là.
Ouais. C'est... moi, je vais le dire là, mais... mettons, là, on est envahi par des démons, puis tout, là, puis là, je fais... Non, j'ai un plan, là, j'ai sorti des rigs, ici, en métal, puis tout, avec mon gros affaire, là. Voyons, c'est... Je suis pas impressionné par le plan d'Urza.
Non?
Non, moi non plus. C'était ça ton armor.
C'est ça.
Urza Rage, tu vois, regarde, deux colorless, un rouge.
C'est le temps de
s'en faire. Ça peut pas être counter-ray. Ça, c'était très joué en compétitif à l'époque. Ouais. Ça, tu vois, ça, c'est un spell très fort.
Ouais.
Deux colorless, un rouge, peut pas être counter-ray, il fait 3 dégâts où tu veux. Mais si tu payes le kicker de 9, il fait 10 de dégâts, qui peut pas être prévenu. Ça, c'est un bon finisher. C'était le c'est une rare. Et on voit un Power Armor qui se met à pitcher plein de boules de feu.
Ouais.
Juste une petite question. Je sais pas si ça s'en vient, mais est-ce que les Power Armor ont guéri la peste?
Non. C'est pas adressé. On imagine si Orim, à un moment donné, elle a trouvé le remède. Mais probablement trop tard avant. J'ai pas lu le roman. Probablement que le roman, ils disent qu'il. Parce qu'on on verra plus de cartes de peste.
La guerre a fini avant qu'il ait fini de gérer.
Ah, la guerre est pas finie. La guerre est pas finie. Non, ça, c'est. Il y a 3-7 ans. Là, on est juste à moitié du premier. On continue. Donc, Maniacal Rage. On voit, en fait, c'est d'autres membres d'équipage. Ça, c'est Tangrat, le Minotaur du Weatherlight dans le rouge. Ça, c'est juste un aura +2/+2, pas bloquer. Puis on voit Tangrat qui dit dans le Fever Text vous rappelez-vous de moi, dire Tangrat. Maintenant, vous allez payer pour quand j'ai été sur Rat. Hein, parce qu'on se rappelle dans Tempest, il s'est fait torturer par les Phyrexiens. Donc, on voit Tangrat qui pète des.
Il a pas aimé ça finalement.
Je pense pas. Hein. On passe à la suivante. Tu vois, ça, c'est le Fact or Fiction des Phyrexiens. Do or die. Fais-le ou meurs. Un colorless ou un noir. Tu sépares toutes les créatures en deux piles. Tu détruis les créatures dans une des piles et l'autre est correct. Donc, c'est un genre de semi-damnation. Donc, on voit, tu sais, c'est plusieurs scènes de bataille de la fin. Passe à la suivante, Tommy.
Ouais, mais pour deux, c'est bon, ok.
Ouais, c'est possible.
Pour deux.
Ça fait la job.
À travers toute cette bataille-là autour des caves de Coilus, éventuellement, tu sais, les héros, il faut qu'ils se rencontrent et ils font les duels. Dueling Ground, on voit ce qu'à un moment donné, Gérard, on imagine, il est débarqué du Weatherlight à un moment donné. Il affronte en duel
Sabot,
la chef des Phyrexiens que j'ai parlé la semaine passée.
C'est un gars ou c'est une fille de Sabot? C'est un monstre.
C'est un monstre assemblé de plein d'affaires. Mais
elle a des glands de ma mère.
Ouais.
J'ai jamais remarqué, je pensais que c'était un monsieur.
Elle a une face féminine. Donc, c'est un enchantement qu'il y a juste une créature qui peut attaquer à chaque tour et il y a juste une créature qui peut bloquer.
Wow, ça dit c'est le duel. Le temps, ça.
Fait que ça, c'est on voit Gérard qui affronte Sabot. Il échange les coups.
You think you can stop me, Ist Sabot? I think I can kill you, replied de Gérard. Hein? Tu crois pouvoir me stopper, Issat Sabot? Je crois pouvoir te tuer, répondit Gérard.
Ah, j'ai tellement hâte d'ensuite quand elle dit en réalité, toi pis moi, on est pareil.
Ah oui! Nous ne sommes pas si différents, toi et moi. Ben oui, c'est
nous
ça.
Sommes pareils.
Yeah. Oh.
Non, c'est que la coalition de Dominaria va gagner la bataille. Hein? La carte Coalition Victory. 3 et une main d'applaudissements, tout le monde.
Ouais.
3 colorless, un blanc, un bleu, un noir, un rouge, un vert. Je vous ai dit, hein, c'est un set multicolore. Sorcery. Tu gagnes la game si tu contrôles un basic land de chaque type et une créature de chaque couleur.
Mais là, tu peux savoir une bébite qui a les 5 couleurs.
Ben oui,
ça,
ben oui, ça compte, bien sûr.
Il y a sûrement un truc à faire avec ça. Un truc que tu payes pas le spell puis que tu as une affaire de 5 couleurs puis tu le fais en instant.
C'est super cher, by the way. Là. Dites-vous, c'est la première fois que vous entendez parler de cette carte-là. Il y a du monde avant vous qui ont essayé de l'utiliser. C'est pas pour rien que c'est une carte de 25 cents. Tu peux. Tu vois, lis-nous le flavor text.
You can build the perfect machine out of imperfect parts. Vous pouvez construire une machine parfaite à partir de parties ou de morceaux qui ne sont pas parfaits.
Fait que le plan de Urza, aussi niaiseux que ça paraît, c'est vraiment c'est ça. Il a monté sa coalition, on a contre-attaqué, on avait des Power Armor, on avait les héros du Weatherlight, on avait le Weatherlight.
Des cavus.
Et on réussit à péter sur le terrain les Phyrexiens qui sortaient des portails.
C'est la coalition Victory
Québec. On invite Stéphéry à remise de médaille pour le sauvé, féliciter. Bravo, mon grand. Merci.
Non, c'est Urza le problème. C'est Stéphéry.
Urza, il y a gars, la coalition a gagné. Là,
bravo!
C'est ça, lui, il voit des résultats, puis bitch!
C'est pour la paix!
Non, TTI, en réalité, même si on le voit pas dans la scène, il a sa médaille, c'est juste que le Chewbacca peut pas l'avoir parce que cette race-là sont trop honorables pour la garder. Mais il a sa médaille quand même.
Bon, ben voilà, les Chewbacca, ils la mériteront peut-être.
Là, vous pensez que c'est réglé, là, les fierces,
ben oui, sont ben c'est fini.
Mais non, c'est sûr, c'est pas réglé, Ursus.
Ben c'est fini,
Coalition Victory. Il y a la victoire, on a gagné avec.
Écoute, on a gagné, c'est terminé, les fierces sont défaits.
Je vais aller voir les deux folders que tu m'as amené pour les shows des prochaines semaines, puis ça va être vide, là, il va être écrit « fuck you », c'est pas vrai, il n'y a rien. En tout cas, sinon, je pense que ça nous amène à la fin pour cette semaine. Merci beaucoup, tout le monde, d'être venu participer. Merci, Olivier Bourbeau-Loup.
Eh oui, hail Satan.
Et voilà, c'est dit. Merci, Emmanuel.
Oui, oui, Satan aussi.
Satan aussi, hein, Satan à ça. Et merci, Lombré.
Avec Satan, faut pas trop Satan, on a trop d'affaires.
On s'attend.
On est allé là. Merci, Jonathan. On peut rappeler c'est quoi la trame sonore qui a joué en background?
Ben, c'est quelque chose de super joyeux, ça s'appelle Pixel Heart. Puis,
c'est quelque chose de super joyeux, ça s'appelle Pixel Heart.
C'est bon. Fait que c'est ça.
Ça s'appelle Pixel Heart, le lien est dans la description. Anyway, là, Jonathan, il a l'air d'être pris à bout. Là, pour moi, il prenait pour les Phyrexiens. Mais on a gagné, c'est sauvé. Merci, Jason, pour cette belle aventure. Mais
moi, je suis un sleeper agent. Je suis vraiment Phyrexien
c'est
power.
C'est vrai, hein, il est gossant, le Phyrexien power. Là-dessus, on vous souhaite une excellente semaine. On revient la semaine prochaine, j'ai l'impression, pour parler d'autre chose, parce que tout est bien, qui finit bien. Merci tout le monde d'avoir participé. Merci à Martin Godette du Touski, de Touski TV et de podcast.com. Merci aussi à tous les membres de la communauté qui nous suivent sur Facebook. Venez y faire un tour. Si vous avez des mimes, n'hésitez pas à les partager. Merci à Bone qui s'occupe des beats. Et je pense que c'est pas mal ça. Hein? Mon nom, c'est Tommy Godette. Le show est disponible sur Spotify. Et on vous souhaite à tous et à toutes d'être le moins. Merci à l'adversaire Manascrew possible.
De la famille H2O Web Media.